coopération des organisations internationales en étroite collaboration. ONU Femmes nous a soutenus dans le processus d'élaboration des plans d'action pour les femmes et la paix et la sécurité, et le PNUD nous a soutenus pour l'élaboration de la stratégie. Ils connaissent ces documents parfaitement, et ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de tenir des remarques reçues de la part des institutions étatiques et des autres parties prenantes, et nous ne modifions pas trop ces documents. Dans la mesure du possible, nous les gardons tels qu'ils nous ont été proposés par les organisations internationales que j'ai citées. J'espère avoir répondu à vos questions. Concernant les recommandations de l'institution du défenseur public, le processus de gestion des recommandations du défenseur public devant le Parlement. Auparavant, il n'y avait pas de processus pour accueillir les recommandations du défenseur public. Ces recommandations étaient émises. Un point, c'est tout. Après 2013, il y a eu une procédure parlementaire. C'est-à-dire qu'après la publication de la recommandation, elle est transmise au Parlement. Le Parlement l'analyse avec les institutions de l'État concernées et adopte un décret qui signifie que cette recommandation du défenseur public est officialisée par le décret du Parlement. Elle devient obligatoire pour les institutions de l'État. Et il ne s'agit plus d'une recommandation, mais d'une obligation. Cela revient devant le Parlement avec la participation du défenseur public qui est notre institution nationale des droits de l'homme. Et j'aimerais vous donner des statistiques au sujet des recommandations qui ont été prévues, qui ont été adoptées par le Parlement émanant du défenseur du peuple ou du défenseur public. En 2013, seuls 10% des recommandations, 49 recommandations étaient acceptées. Et il y a eu un décret parlementaire. Alors que en 2020, 91% des recommandations, 305 recommandations, ont été considérées par le Parlement comme acceptables. Et elles sont devenues obligatoires pour les institutions de l'État. Cette augmentation du nombre de recommandations reflété dans le décret est assez stable et je peux vous fournir des statistiques détaillées si vous le souhaitez. Mais bien sûr, cela n'est pas aussi important de savoir combien il y a de recommandations dans le décret. Ce qui est plus important, c'est de savoir combien de recommandations sont respectées. Vous avez mentionné le fait que moins de la moitié des recommandations sont respectées. Techniquement, c'est vrai. Mais il y a eu des détails que j'aimerais partager avec vous. Par exemple, le nombre de recommandations formulées par le défenseur public en 2013-2014 reflétées dans le décret était de 47. Un chiffre très faible par rapport au chiffre de 2019 qui est de 259. Le nombre de recommandations est 5 fois plus élevé qu'auparavant. Peut-être qu'il n'y a que la moitié des recommandations qui sont prises en compte, mais c'est encore un chiffre élevé. Et j'attire votre attention sur le fait que la pleine mise en œuvre des recommandations, oui, vous avez, c'est moins que la moitié, un peu moins que la moitié. Mais il y a aussi des recommandations qui sont en cours de mise en œuvre, qui vont être respectées. Et ce nombre de recommandations est équivalent à 42% en 2020. Vous savez que parfois les recommandations ne sont pas faciles à mettre en œuvre, surtout si cela ne relève pas, ou si cela plutôt concerne des territoires qui ne sont pas contrôlés de fait par les autorités géorgiennes, si cela nécessite des amendements législatifs, etc. Cela prend un peu plus de temps d'appliquer les recommandations. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet des recommandations du défenseur du peuple. Le nombre de recommandations augmente. Les statistiques sont finalement prometteuses. J'en ai terminé, je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au deuxième point. Paragraphe 2, toujours les questions de M. Zibéry, et je vais essayer de répondre à certaines des questions, et ensuite je donnerai la parole.